Bonjour, aujourd'hui 27 mai, nous recevons Hélène Richard autour d'un apéro. D'ailleurs, vous entendez le bruit. Et Hélène Richard, vous travaillez chez Flubble Up, qui est une maison d'édition à Poitiers et qui édite essentiellement de la bande dessinée.
Oui, de la bande dessinée d'auteur, de la bande dessinée alternative.
Et votre titre en vogue, là, qui vient de sortir.
Pour faire un peu de pub, c'est Petite histoire des colonies françaises de Grégory Jarry et Autoté.
Voilà. Et alors, en plus de toutes ces qualités, vous êtes une spécialiste émienne. Donc, une spécialiste de Bénédictine, parce que vous avez absolument tout lu. Et aujourd'hui, vous allez nous parler de son dernier livre qui s'appelle
Trajectoire d'une licorne.
Alors le micro est à vous.
D'accord, donc Trajectoire d'une licorne, effectivement pour quelqu'un qui n'a pas lu Benedict Heim, c'est un livre qui parle d'amour fou. Pour quelqu'un qui a déjà lu Benedict Heim, ce n'est pas une surprise, de toute façon ça parlera forcément d'amour fou, comme tous les livres de Benedict Heim. Donc c'est le cinquième roman, si j'ai bien compté. Et donc c'est vraiment un thème dans l'écriture de Bénédicte qui revient par vagues, comme son écriture elle-même revient assez inlassablement par vagues d'analyse, analyse de l'amour et de tout ce que l'amour peut chambouler dans les gens par rapport à la société, par rapport à ce qu'on a le droit d'admettre ou pas. Et Trajectoire d'une licorne, pour moi c'est un petit peu un tournant dans l'œuvre de Benedict Heim, parce que justement c'est une trajectoire. Et que par rapport à ses précédents romans qui analysaient une séquence d'amour, une histoire pas forcément courte, mais disons sur quelques années, là il va y avoir plusieurs étapes. C'est un peu un roman d'apprentissage, même s'il n'est pas classique dans le contenu de l'apprentissage, ni dans les étapes. Mais en tout cas, il y a plusieurs étapes de. Voilà, plusieurs amours. Un seul personnage qu'on cueille à 10 ans, c'est la licorne, c'est Alix. À 10 ans, il est déjà artiste, il est déjà hypersensible et c'est pas facile pour lui. Il a des parents qui se séparent, comme ça arrive. Et artiste hypersensible, il découvre beaucoup de choses avec sa gouvernante, qui lui apprend, à laquelle d'ailleurs il apprend aussi une relation inédite, sans doute pas approuvée par d'autres, comme on a vu dans le précédent roman de Bénédicte, enfin un des précédents, Tu ne mourras pas. Et ensuite, à l'issue de la trajectoire de ce roman, on retrouvera Alix à l'orée de la cinquantaine, quelque chose comme ça, qui aura, donc, ma foi, parcouru plusieurs amours suite à l'issue un petit peu abrupte de ce premier amour d'enfance et totalement, on va dire, pas courant, qui aura fait sa trajectoire d'artiste, sa trajectoire d'homme, sa trajectoire personnelle. Donc, la nouveauté pour moi dans ce roman, c'est qu'il y a plusieurs étapes. Et là où chaque rencontre amoureuse dans les romans précédents se heurtait avant tout à la norme, à la mainmise sociale, à ce qui est convenable ou pas, là, il y a ce côté-là, mais il y a aussi la construction par plusieurs rencontres et plusieurs des échecs aussi, des périodes de creux, un passage à vide, un sacrifice inutile.
Donc la première rencontre, c'est la rencontre de la... Je ne sais plus très bien si c'est une bonne, une femme de ménage, enfin bref, quelqu'un qui travaille pour ses parents quand il est tout petit. Et ça, c'est quelque chose qu'on a déjà vu donc, dans un roman précédent, comme ce que vous avez dit. Et pour vous, ça, est-ce que c'est un bon départ pour Alix ?
Non, c'est plutôt un mauvais départ. Enfin, on peut s'imaginer au début, surtout quand on a lu Tu ne mourras pas, que ça y est, c'est parti comme ça, ça s'enflamme très vite. Et lui, il va aussi très vite. Il se découvre artiste, il comble les failles de sa mère qui est vraiment spécialement bête. La bêtise dont il souffre quand il voit la bêtise de sa mère, on voit qu'il en souffre terriblement. Il souffre du fait que son père ne puisse plus vivre avec elle et que son père qu'il aime. Ça lui laisse une faille béante. Il rencontre Inès. Inès, elle est intelligente, voilà, elle est gouvernante, mais c'est pas. On va dire qu'elle n'est vraiment pas traitée comme dans certains films on traite les gouvernantes. Elle a aussi un tempérament bien à elle et elle accepte cet amour-là, inédit. Donc c'est quelque chose d'exception, comme dans d'autres romans, qui commence à s'imposer un peu à la face du monde. Et en même temps, pour Alix, peut-être qu'il est trop naïf, il est trop enfant, il va à un moment. C'est une étape que Inès, elle, n'accepte pas. Et tout en sachant que, je ne sais plus quelle est l'expression de Bénédicte, elle se... Ah, j'avais marqué la page parce que c'est assez ça. J'avais marqué la page, mais je la repère. Si, voilà. À la fin, Palix, Inès se choisit préservée plutôt que vivante, donc c'est elle qui va trancher net, et ça va être effectivement un mauvais départ pour Alix parce qu'il va mettre longtemps à s'en remettre.
Donc en fait Inès elle rencontre cet amour, mais elle n'arrive pas à le supporter, en fait elle n'arrive pas à le mener à bien, donc Alix va être obligée de faire le deuil de ce premier amour, et ça va probablement conditionner le reste de sa vie.
Oui, ça va conditionner le reste de sa vie, et ça va être une quête qui, oui, il fait le deuil, il l'enterre, il se prostre, il n'est plus du tout artiste, il est complètement bloqué, complètement sec. Malgré tout, sa tête continue à, enfin, sa singularité est toujours là, indéniablement. C'est aussi comme ça qu'il va rencontrer quelqu'un d'autre, qui est quelqu'un de très brillant, un deuxième amour dans sa vie, qui allait aussi d'être quelqu'un d'exception. Après, il va se passer on va peut-être pas dévoiler tout le roman non plus. Disons que cette seconde étape n'est pas forcément l'accomplissement qu'il attend, en tout cas. Et en tout cas, son accomplissement personnel, son accomplissement d'artiste n'est pas là. C'est même plutôt le contraire. Donc, il va passer par une longue période de sacrifice personnel, de sacrifice artistique, avant de rencontrer quelque chose d'autre, plutôt avant de creuser assez le manque pour lui-même rechercher sciemment le rapport à cette première histoire d'amour de son enfance, et se dire que la vie c'est autre chose, enfin qu'il choisit enfin d'être vivant, mais bon, ça arrive pas tout de suite. Il attend, il y a une demande, et quelqu'un arrive, et c'est là que c'est reparti.
Alors là, c'est un thème bien sûr émien. Je signale au passage que c'est vous qui avez créé d'ailleurs ce terme. Qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué ou séduit par rapport aux autres romans dans cette trajectoire d'une licorne ?
Eh bien, c'est sans doute la richesse de la trajectoire, qui a toujours autant d'inattendu dans l'attendu. C'est-à-dire que l'attendu, c'est le thème. Enfin, on sait que ça sera une histoire d'amour fou, et on sait que le monde ne va pas l'accepter, et que pourtant le monde devra plier. Pour autant, les obstacles ne sont pas forcément là où on les attend. Dans le premier échec amoureux, ils sont à l'intérieur de l'objet de l'amour, en fait, enfin de l'amour et de la découverte artistique. Ensuite, dans les relations familiales, je trouve que la complexité de la relation aux autres est particulièrement fine, et aussi dans certains passages qui sont d'une lucidité complètement écorchante et d'une méchanceté sans faille. Autant Benedict Heim parle très bien d'amour et des bouleversements qui s'en suivent, et a un lyrisme tout à fait à elle, autant aussi dans la méchanceté. Enfin, je l'ai trouvée très forte dans Trajectoire d'une licorne, sans pour autant que ça soit un roman méchant. C'est pas forcément... Elle a fait des romans, je trouve, très sombres, et dans lesquels on se plonge et on n'en sort pas indemne, on en sort un peu abîmé parfois, ce qui n'est pas toujours un mal. Mais là, on a vécu beaucoup de choses au cours de la trajectoire, mais c'est pas, on n'a pas un goût amer en bouche, ça va, ni en tête.
Alors, parfois c'est cruel, mais par rapport aux autres, c'est plutôt plus clair, plus l'espoir est là presque tout au long du livre, alors que généralement... Benedict Heim ne nous laissait pas beaucoup de chance de nous en sortir. Et donc, à travers cette deuxième rencontre, est-ce que vous pensez que Calix évolue, ou en tous les cas se construit pour pouvoir accepter trouver la troisième personne qu'il va rencontrer dans sa vie?
Se construit par le négatif, je dirais plutôt. Il est en but à un renoncement permanent, et c'est plutôt une déconstruction avant de se reconstruire, quoi. Quelque chose qu'il avait.
Alors, qu'est-ce qui germe en lui à ce moment-là pour le mener lui dans sa vie telle qu'il la souhaite?
Pour moi, ce qui germe, c'est la révolte, c'est l'insatisfaction, c'est le face-à-face trop violent avec l'aridité de la norme. Ce qui précédemment arrivait, je trouve, très vite dans d'autres romans de Benedict Heim, notamment Tu ne mourras pas, ou bon, La femme de mon père, qui était complètement dans le non-dit et dans le... pas complètement, mais beaucoup, beaucoup dans le non-dit et dans le tabou. Là, on se dit que ça pourrait être un accomplissement. Socialement, il pourrait avoir réussi pour quelqu'un de normal, pour un... je sais pas moi, un psychiatre très bien calibré, il a réussi à passer outre ses débordements enfantins, il s'est rangé, il a trouvé une femme brillante, fait des beaux enfants, et en fait c'est ça qui le détruit, parce qu'il a peut-être justement trop enterré, ou plutôt il a en lui une quête d'absolu comme ont beaucoup de personnages amiens, qui est quelque chose qu'on n'enterre pas comme ça, et qui donc va faire le vide petit à petit, et le lecteur assiste à un échec, à un gâchis monumental, et au bout d'un moment il a... Arrivé au bout de ça, il constate sa propre aridité, son art lui manque, il n'arrive de toute façon pas à le pratiquer, et il est conscient qu'il lui manque la vie, qu'il lui manque un amour qui n'est pas celui dans lequel il était. Il a disparu, donc il va le chercher. À un moment, il recherche d'ailleurs peut-être trop, un peu follement, une image de son premier amour. Ça sera autre chose qui arrivera, mais ça, le déclenchement sera le même. Et après, il apprend, je pense, la distance, à ne plus se confondre avec le premier objet de son amour, où il était même artistiquement immédiat, c'était la peinture à même le corps, c'était l'union totale. Et dans cette troisième étape amoureuse, il y a au contraire beaucoup de... un apprentissage qui s'est fait, et encore d'autres échanges aussi avec l'objet de son amour.
Alors sans tout nous raconter, ce qui va être difficile... donc la troisième partie de ce livre où donc Alix rencontre ce qui va le construire et le sauver. Maintenant j'interviens plus, je vous laisse parce que j'ai pas arrêté de vous couper. Alors voilà, l'univers est mien pour Hélène.
Je sais pas si je vais encore dire trop de choses sur la troisième partie, sinon on va vraiment tout dévoiler, mais peut-être aussi insister sur le fait que c'est l'accomplissement, qu'il y a dans ce livre une thématique de Bénédicte Anne parmi les autres qu'elle a aussi tirée métaphoriquement dans l'écriture et dans le récit, qui est le fait que par son art, elle arrive à dire des choses que la société n'admet pas habituellement. Quelque chose qui était déjà présent dans l'épilogue de Tu ne mourras pas, où effectivement le jeune garçon qui avait découvert précocement une passion amoureuse partagée, alors que la société avait renié cette passion jusqu'au drame, finissait par finalement la mettre, non pas la verbaliser, mais la matérialiser par des peintures. Là, c'est aussi la trajectoire d'un peintre, il y a tout un travail d'écriture autour de la représentation et de l'avenue au monde de cette réalité-là qui ne serait pas acceptée et qui parvient à l'être par un travail artistique, et c'est exactement ce que fait Bénédicte Haim justement.
Un mot pour finir sur l'auteur, le style, le livre, enfin un mot un peu personnel.
Le style de Bénédicte Haim, moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et c'est difficile à dire tellement ce sont des vagues de, on pourrait dire, de lyrisme et d'analyse, et parfois d'une littérature écorchée, mais... comment dire ? Je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est très osé. Peut-être que c'est pour ça que ça touche beaucoup. En tout cas, ça touche certaines personnes profondément, au point de creuser avec elles ce sillon sans fin de l'amour fou et de la folie. Voilà, je pense que c'est ça, là, ce qui me touche le plus, c'est qu'elle ose.
Merci beaucoup, c'était une très belle fin. Merci.